Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Et on va lire un passage assez long, mais c'est important pour nous de saisir ça. Donc, Jean 5, et on va commencer la lecture au verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Mais Jésus leur répondit, c'est-à-dire au chef des Juifs, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il a donné pouvoir, lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Mais vous avez envoyé une délégation vers Jean, Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Alors, on fait un petit intermède de Romains 9, vu l'état de la santé de Philippe. Et à le regarder, je pense qu'il vaut mieux que je prenne deux messages pour ce message. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses dans ce passage, et effectivement, on va voir comment on peut avancer, mais peut-être que ça va faire deux messages. Aujourd'hui, on veut regarder le cœur de l'Évangile. Et ça, c'est important parce que on peut venir à l'Évangile et ne pas voir l'Évangile. Donc, c'est important pour nous de voir quel est le cœur de l'Évangile. Alors, le passage que nous avons lu dans ce chapitre 5 de l'Évangile selon Jean fait suite à un autre passage qu'on connaît assez bien, je pense, la guérison de celui qui était paralytique à la piscine ou au réservoir de Bethesda. Et vous connaissez les détails peut-être de cette occasion. Jésus vient, il est à Jérusalem, et à Jérusalem, il y a cette piscine. C'est un genre de réservoir, et il y a 5 portiques. Il y aura 5, on pourrait dire, des salles tout autour de cette piscine, de cet endroit où il y a de l'eau. Alors, de l'eau, c'est quelque chose d'un peu spécial au Moyen-Orient, surtout à Jérusalem, qui est située dans la hauteur. Et Bethesda, vous qui êtes bon en hébreu, vous savez très bien que ça veut dire la maison de miséricorde. Et là, c'est vraiment le salut selon les hommes, parce qu'à Bethesda, il n'y avait vraiment pas de miséricorde. Vous vous rappelez que de temps à autre, l'eau était agitée. Bon, on va laisser tous les détails au sujet de qui est-ce qui agitait l'eau, parce qu'il est dit que c'était un ange. Mais la chose que je veux marquer, c'est que le premier qui était dans l'eau, après ça, était guéri, quelle que soit sa maladie. Donc, à Bethesda, c'était chacun pour soi et le premier gagne. Et ça, c'est la miséricorde selon les hommes. Il n'y a pas de miséricorde selon les hommes. Et dans cette maison de la miséricorde selon les hommes, vient le Seigneur de miséricorde. Mais il vient pas n'importe comment. D'abord, première chose, il vient, on ne l'a pas invité. Et ça, c'est déjà le cœur du salut. Et il vient, il y a des grandes multitudes de malades, toutes sortes de maladies à Bethesda. C'est ce que le texte nous dit. Jésus peut guérir chacun d'entre eux, facilement, simplement, il n'a même pas besoin de parler, il suffit qu'il le veuille. C'est ça sa parole. Et pourtant, Jésus ne guérit qu'un seul homme. Et si on regarde bien, on ne va pas entrer dans les détails ce matin, mais si on regarde bien, il est très peu probable que cet homme ait été sauvé, mais il a été guéri. Et il a été guéri par la puissance de Jésus et par la parole de Jésus. Et ça, en fait, nous montre que c'est une parabole. On ne va pas se fixer sur la guérison de cet homme, mais sur le message qui est derrière et qui va se développer. Parce que tout le chapitre 5 de Jean, c'est une confrontation entre Jésus, le Seigneur de gloire, le Seigneur de miséricorde, et les chefs des Juifs, c'est-à-dire les autorités religieuses, dans la seule religion qui contenait la vérité à l'époque. Donc, ça fait suite à cette guérison du paralytique. Alors, sortons-nous de cette histoire dont on est peut-être familier, on est familier avec les détails, mais essayons de tirer des leçons pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Parce que on n'est pas différent de ces hommes qui vivaient à cette époque-là. Et nous vivons au milieu d'êtres humains qui sont tout à fait comme ces gens de cette époque. Donc, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut se situer. Déjà, notre propre niveau. Est-ce que, comme ces autorités juives, comme ces chefs des Juifs, je me trompe sur moi-même? Je m'illusionne sur moi-même? Et puis, si le Seigneur m'a appelé à prêcher, Est-ce que je connais vraiment ces choses? Et est-ce que c'est vraiment le cœur de mon message? Et puis, si le Seigneur m'appelle à bavarder, ce que nous appelons l'évangélisation, bavarder la parole, est-ce que c'est vraiment ça le cœur de ce que je dis? Parce que quand on regarde ces chefs des Juifs, il y a une chose qui ressort le plus chez eux, mais on le voit partout. C'est qu'ils pensent qu'ils sont acceptés par Dieu en eux-mêmes. Ça, c'est le cœur de la religion. Et il nous faut bien concevoir, il nous faut bien nous rappeler que ça, c'est vraiment la religion de l'homme tel qu'il est né. Et donc, puisque nous sommes ici, c'est ce qu'il y a, les dynamiques qu'il y a dans notre cœur par nature. Par nature. Et nous sommes encore dans cette chair, donc il faut faire bien attention. Parce que prendre le salut et l'acceptation auprès de Dieu, l'acceptation de Dieu, ce qu'on appelle la justification, prendre ça pour acquis, c'est toujours quelque chose de dangereux. Et c'est en fait écarter la grâce et revenir sur le terrain des œufs, sur le terrain de quelque chose qui appartient à l'être humain, qui va avoir puissance auprès de Dieu. Et ça, ça détruit la grâce, comme le dit Paul très souvent. Ce n'est pas simplement que c'est un autre message que la grâce, non, ça détruit la grâce. Et la grâce détruit les œuvres. C'est le pire obstacle à la grâce et au salut. Quand on est propre juste, c'est-à-dire quand on pense qu'on peut avoir un certain levier sur Dieu, que ce soit la Vierge Marie, que ce soit mes bonnes œuvres, que ce soit ma grande valeur, et toutes sortes de choses comme ça, à partir de ce moment-là, je me coupe du salut, parce que je pense que je suis sauvé. Comme les Juifs venaient auprès de Jésus, ils disent, mais nous aussi nous sommes aveugles. Vous vous rappelez en Jean 9, quand il guérit l'aveugle né, l'aveugle de naissance. Sommes-nous aveugles? Il dit, mais si seulement vous étiez aveugles, ce serait pas mal. Parce qu'on pourrait vous guérir. Donc, réfléchissons pendant une seconde. Nous sommes ici en présence d'hommes religieux stricts. Les chefs des Juifs étaient des hommes très stricts. Ce sont des gens qui connaissent l'Écriture très bien. Rappelons-nous, il n'y avait pas de versets ni de chapitres à l'époque. Mais ils connaissaient très bien. Jésus lui-même dit dans notre passage qu'ils sondent les Écritures. C'est-à-dire qu'ils vont creuser dans les Écritures. Et franchement, si quelqu'un était prédisposé au salut, on revient à ce mot prédisposé, n'est-ce pas? Ça entre bien, même si on ne s'était pas concerté avec la présidence. Si quelqu'un est prédisposé au salut, eh bien certainement, ce devait être ces chefs des Juifs. Alors, ils étaient probablement prédisposés au salut, si on peut dire à la manière humaine, ce qui est faux, mais ils n'étaient certainement pas prédestinés. Or, ce sont précisément ces gens-là qui se dressent contre le Christ, contre l'envoyé de Dieu, et qui cherchent de plus en plus à le mettre à mort. Ici, au verset 18, quand il se fait l'égal du Père, alors ils deviennent encore plus enragés contre lui. Ce n'est pas simplement qu'ils violent le sabbat, selon leur histoire, leur idée, mais en plus, ils se déclarent égal à Dieu. Comment est-ce que cela peut-il se faire? Des gens religieux qui veulent mettre à mort le Fils de Dieu. Comment des gens plongés dans les Écritures peuvent-ils en venir à s'opposer à celui dont ces Écritures parlent? Et comme vous le voyez, il est important de comprendre ces choses. Pourquoi? Premièrement, c'est important pour moi-même, parce que je ne veux pas certainement me bercer d'illusions. Et c'est très facile. C'est très facile. Aucun de ces Juifs, de ces chefs des Juifs, ne se pensait trompé par ces illusions. Ils étaient certains de leur salut. Et c'est un danger. C'est un danger. Parce que ces gens-là, sauf dans le cas de ceux envers qui la grâce de Dieu a œuvré avec puissance, ces gens-là, en fait, se sont réveillés trop tard. Trop tard. Ensuite, comme je l'ai dit, si on annonce la parole, que ce soit en privé, que ce soit en public, nous voulons comprendre quels sont les obstacles qui empêchent les gens à qui nous parlons de saisir ces choses. Qui empêchent les gens de venir au salut. Et c'est rarement l'ignorance qui empêche la personne de venir au salut. La plupart du temps, et je me rappelle encore dernièrement, parler assez brièvement à quelqu'un au sujet du salut, essayer de montrer que c'est quelque chose de différent. Et qu'est-ce qui empêche cette personne d'accepter cela? Ce n'est pas l'ignorance, c'est le fait qu'ils savent, ils pensent savoir tout au moins. Oui. Donc nous avons besoin de savoir que nous parlons à des hommes et des femmes de cette sorte. Beaucoup en Israël auraient accordé le salut à ces Juifs sans, comme on dit dans notre langue, hein, ils lui auraient donné le bon Dieu sans confession. Il n'y a même pas besoin de confesser. Mais le Seigneur n'était pas ainsi. Le Seigneur montre que tout religieux que sont ces hommes, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Et l'important dans la déclaration de l'Évangile n'est pas de faire sortir les gens de l'erreur. Tout aussi nécessaire que cela soit, ce qui compte vraiment, c'est de venir à Christ. Le fait que je comprenne l'Évangile intellectuellement, ça c'est une bonne chose. Mais si mon espoir se repose en ça, je n'ai même pas encore commencé. Il faut venir, c'est une union avec Christ. Et là, on le voit dans notre passage. Parce que Jésus parle à des hommes qui sondent les Écritures. Quelques décennies avant, leurs prédécesseurs sont convoqués par le roi. Et le roi dit, où doit naître le Christ? Ils ne vont pas chercher le concordance, hein. Ils savent tout de suite qu'en Michée, chapitre 5, il est dit que c'est Bethléem. Un tout petit passage comme ça, mais ils le savent. Ces gens possédaient les Écritures, ces gens connaissaient l'Écriture. Ils cherchaient à diriger les autres en se basant sur l'Écriture. Pourtant, Dieu les rejette. Dieu les rejette. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore venus au cœur de l'Écriture. Ils ont la coquille, mais ils rejettent l'amande. C'est comme quelqu'un qui va prendre une noix, qui va casser la noix et qui va manger la coquille. On dit, mais celui-là, il a un problème. Et certainement, ça ne va pas le nourrir. Non, il rejette le cœur de l'Évangile. Et pourtant, veillons à ne pas nous tromper nous-mêmes. Ils ne viennent pas au cœur de l'Évangile qui est Christ parce qu'ils ne viennent pas dans la foi. Ils viennent avec leur intelligence, avec leur raisonnement, leur déduction. Mais ils n'ont pas cette foi. Et ils ne viennent pas dans la foi parce qu'ils ne voient pas qui est le cœur de l'Évangile. En fait, ils s'arrêtent simplement à des choses humaines, à des choses qui touchent la chair, qui concernent simplement le niveau humain, le niveau horizontal, on pourrait dire. C'est important pour nous aussi, car nous sommes de la même race. Et quand nous parlons à d'autres, si nous arrivons à parler à d'autres, nous parlons à des gens qui viennent de la même race, en fait. Qui sont morts spirituellement. C'est-à-dire que même si on parle de choses spirituelles, alors ils les comprennent d'une manière charnelle, d'une manière qui est limitée par l'humanité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la parole parle du fait qu'il y a un voile qui est placé devant les yeux du religieux, devant les yeux de l'être humain. Pourquoi? Pour cacher Christ, parce que si jamais ils arrivaient vraiment à saisir qui est Christ de manière charnelle, eh bien, ils arriveraient encore à tordre ça. Nous arriverions, par nature, à tordre ça. Mais bon, ça c'est fin de la parenthèse. Alors, regardons en premier, et comme je dis, on va peut-être se limiter ce matin, et puis peut-être continuer, comme ça, Philippe, tu auras des petites vacances. Quelle est la base de toute cette confrontation entre les chefs des Juifs, les chefs religieux et Jésus-Christ? Rappelons-nous que cette confrontation entre Jésus et ses chefs religieux provient du miracle de la guérison du paralytique. Un homme qui est paralytique depuis des décennies, incapable de faire quoi que ce soit. Et comme tous les miracles, celui-ci pointe vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et en fait, ce miracle n'est qu'en fait une image terrestre pour nous indiquer des réalités spirituelles, célestes. Comme je dis, il est très probable que l'homme n'était pas converti. Donc ça pointe, et on veut vraiment porter les regards sur ça, vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà un homme impotent, depuis des années, qui est entièrement restauré dans sa santé, dans sa capacité, par la parole du Sauveur. Et c'est très intéressant que Jésus, quand il parle à cet homme, il lui demande de faire quelque chose que cet homme ne peut pas faire. Et pourtant, l'homme le fait. Donc, un homme impotent, entièrement restauré. Et quiconque gît dans la mort et l'impotence spirituelle a besoin du même remède. C'est ce que Jésus essaye de montrer. Aujourd'hui, le message qu'on entend à droite à gauche, c'est que Dieu, dans sa compassion, a fait une œuvre en Jésus-Christ. Une œuvre merveilleuse, une œuvre de salut. Et en quelque sorte, il a ouvert la porte, il a remis les pendules à zéro, il a tout ramené au point de départ. Et maintenant, vous qui écoutez, alors comprenez ce que Dieu a fait et acceptez ou concluez le marché avec lui et vous serez sauvés. Et il y a des tas d'autres hérésies qui se greffent là-dessus. Mais ici, on a exactement l'opposé. Alors, nous sommes familiers avec ça. Mais on a besoin de continuellement revenir à cela parce qu'on voit combien c'est souvent dénaturé. Quand Jésus parle aux paralytiques, il ne prend rien de ce qu'il y a dans cet homme pour le sauver, pour le guérir. Rien du tout. Et quand Dieu vient vers un homme, une femme, mort dans les péchés, mort dans sa vie humaine, eh bien, il ne prend rien dans cette personne, rien du tout. Il donne la vie. Il donne la vie. Et c'est exactement ce que Jésus montre ici, par cette guérison. Le paralytique n'a pas été guéri parce que, une fois qu'il a entendu l'ordre du Sauveur, « Lève-toi et prends ton lit », alors il a réfléchi pour voir si cela cadrait avec la tradition, avec la logique. Peut-être qu'il s'est dit « Bon, je vais bien réfléchir à la chose et puis demain, après le sabbat, je vais me lever et puis parce que je ne peux pas faire du travail aujourd'hui. C'est le sabbat. » Non, il n'a pas fait ça du tout. Il n'a pas fait ça du tout. Vous voyez, c'est ce que les Juifs faisaient spirituellement. Ils regardaient ce que Jésus avait fait, et plutôt que de voir l'énormité spirituelle de la chose, le fait que voilà quelqu'un qui donne la force à un homme qui est perclus, qui est incapable de se tenir debout. Donc cet homme doit être vraiment quelque chose de différent, quelqu'un qui vient du dehors. Non, qu'est-ce qu'il regarde ? Il travaille le sabbat. Il viole la loi. Il viole la loi. Ils réfléchissent. Ils ne se considéraient pas comme morts dans leur péché. Et bien qu'ils parlent du salut, en fait, ils discutaient avec Dieu. Quand cet homme, si cet homme, en entendant l'ordre du Seigneur, avait répliqué, « C'est impossible. Tu ne vois pas que je ne peux pas bouger ?» Alors, il n'aurait jamais été guéri. Jamais. Et combien de fois vous parlez à quelqu'un, ou même vous vous parlez à vous-même, et vous dites, mais comment est-ce que ça peut se faire? Ou les gens disent, mais c'est impossible. Oui, à l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. On est dans un autre registre, vous voyez. Et ici, les chefs des Juifs montrent leur mort totale. Et la religion ne sert à rien. En fait, la religion les aveugle davantage. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur espoir en eux-mêmes. L'homme, au contraire, et là je parle au niveau plutôt humain, l'homme, au contraire, il entend la parole de vie, la parole qui est puissante, cette vie le frappe et, en résultat, il obéit par la foi et il est guéri. Mais cette foi, elle vient d'où? Elle ne vient pas de lui. Elle ne vient pas de lui. C'est dans la parole qu'elle est. Et cette foi lui donne la force par laquelle il peut se tenir debout. Il peut être complètement remis d'aplomb. Et c'est ce que le Seigneur cherche à faire, même avec ses Juifs, en fait. Chaque fois qu'il parle aux pharisiens, aux Sanhédrin, à ses chefs des Juifs, alors, il est conscient que ces gens sont des opposants vicieux, vraiment, qui sont vraiment complètement contre lui. Mais chaque fois qu'il leur parle, sans cacher leur péché, sans cacher leur aveuglement et leur mort, il ouvre la porte. Si l'Esprit œuvre, ces hommes peuvent venir vers lui. Mais la plupart du temps, ils ne viennent pas, bien entendu. Il leur montre qu'il a le droit de régner. Celui qui peut donner la vie de cette manière-là, il est effectivement souverain. D'une certaine manière, on pourrait dire, si Jésus était venu à Bethesda, qu'il avait guéri tout le monde, il aurait manifesté moins sa puissance, sa souveraineté, sa seigneurie, qu'en touchant un seul cœur. Parce que là, il fait ce qu'il veut. Autrement, on aurait pu dire, bon, ben, c'est normal qu'il fasse pour tout le monde. C'est la justice, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de justice, là. Non, il a le droit de régner. Et ces hommes religieux l'accusent de se faire l'égal de Dieu. Il est comme le Père. Et lui, loin de temporiser, dit « Non, non, vous avez mal compris, je suis plutôt, comme diraient les soi-disant témoins de Jéhovah, je suis plutôt le premier la première des créatures. » Non, il montre que c'est exactement ce qu'il réclame. Et il est intéressant de voir comment eux cherchent à montrer qu'ils transgressent la loi à laquelle tout homme doit être soumis, la volonté de Dieu. Il faut adorer Dieu. Il montre comme quoi il transgresse cette loi, et lui, il cherche à leur montrer que la guérison qu'il vient d'accomplir prouve qu'il est Dieu, et donc qu'il est au-dessus des lois, au-dessus de la loi. Ce n'est donc pas vers la loi qu'il faut porter le regard. Ce n'est pas vers la volonté de Dieu qu'il faut porter le regard en essayant de la faire, parce qu'on n'arrivera pas. Non. Où est-ce qu'il faut porter le regard? Vers celui qui libère de l'impuissance. Mais ces hommes, ces chefs des Juifs, ne se voient pas comme impuissants. C'est ce que montre la venue de Nicodème auprès de Jésus. Ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, mais il leur faut juste un petit peu plus de puissance. C'est tout. Non, le salut ne vient pas quand on a un peu plus de puissance. Le salut vient quand on est totalement impuissant. Est-ce qu'on se voit comme cela? Et Jésus, en manifestant leur faux espoir, il montre, il dévoile l'incrédulité du cœur, même chez ses chefs religieux, et je dirais surtout chez ses chefs religieux. Et c'est ainsi qu'il les appelle à venir, non seulement à l'Écriture, qu'ils sondent sans arrêt, mais au cœur de l'Évangile, c'est-à-dire à lui-même. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Et il y a la vie dans les Écritures. Mais pourquoi? Parce qu'elles parlent de lui. Mais ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. Et moi-même, Est-ce que je suis venu au cœur de l'Évangile? Ou bien est-ce que je me contente de savoir des choses au sujet de l'Évangile, des choses au sujet de Dieu, des choses au sujet de comment Dieu œuvre? Quand je parle à d'autres, est-ce que j'annonce à ces gens le cœur de l'Évangile? Est-ce que je tourne les regards vers Christ? Ou est-ce que je me contente de parler de quelque chose qui est correct, moral, religieux, qui me permet d'avoir une certaine satisfaction de moi? Alors, en fait, c'est une introduction un peu longue ici. Mais c'est un peu nécessaire. C'est nécessaire pour bien centrer notre réflexion. Et comme vous avez vu, c'est un long passage que j'ai lu. Il y a beaucoup de choses. On va regarder ces choses de façon... On va les sélectionner sous quatre points. Je ne pense pas qu'on va tout couvrir ce matin. Premier point, ce que Jésus revendique. Ce que Jésus revendique. Le Seigneur avait accompli un miracle notoire. Personne n'avait jamais fait ça. Mais les Juifs, les religieux, mettent vite cela de côté. C'est vraiment frappant comme quoi parmi nous les hommes, les choses qui nous frappent une minute deviennent très rapidement communes. On ne les remarque même plus. Combien de fois c'est le cas? Et ici, les Juifs, au lieu de se focaliser sur le fait que, voilà, le Seigneur a fait quelque chose qu'on n'a jamais d'inouï, quelque chose qu'on n'entend pas parler. Ils n'avaient jamais vu cela, probablement. Non, au lieu de voir cela, qu'est-ce qu'il y a? Ils se focalisent sur le fait qu'ils violaient le sabbat. En fait, c'est très intéressant que le mot signifie « dissolver ». Ils dissolvaient le sabbat. Ils faisaient le sabbat d'aucune puissance. Alors, bien entendu que ça, c'est leur vision du sabbat. Leur vision du sabbat. Ce n'était pas le sabbat de Dieu. Loin de là. Mais c'est ce qu'ils veulent voir. Ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes. De quel droit est-ce que cet homme se permet-il de faire cela? C'est la grande question. Et en réponse, Jésus revendique rien de moins que la divinité. Au verset 17, il se met dans la même catégorie que le Père. Regardez. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi et le Père, on est un. Je suis dans la même ligue que le Père. Et Jésus revendique exactement ça. Il réclame la divinité. Et si vous pensez que je mets un peu trop là-dedans, les Juifs, c'est ce qu'ils ont compris. Verset 18, il voulait le faire mourir davantage. Pourquoi? Parce qu'il se faisait égal à Dieu. Quand on parle en termes juifs du Père et du Fils, on ne parle pas d'hérédité. On parle d'égalité, de même nature. Vous voyez? Et face à la réaction hostile des Juifs, des religieux, qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il essaye de temporiser? Est-ce qu'il essaye de rendre acceptables ses propos à ces hommes? N'est-ce pas ce qu'on fait souvent? Peut-être la tentation est là souvent, de ne pas choquer les gens, d'essayer de leur faire comprendre les choses. Non, au contraire, Jésus, il enfonce le clou. Non seulement il réclame la divinité pour lui-même, mais il montre comment il est intimement lié au Père tout en étant distinct. Et là, on a tout ce passage-là. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. » Alors, ici, on a un savant dosage, je dirais presque un dosage divin. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. C'est-à-dire que le Fils, quand il est sur terre, il y a des choses qu'il ne sait pas, qu'il a choisi de ne pas savoir. Il a écarté sa gloire. Et là, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Bien sûr qu'il peut. Mais en tant que Fils envoyé, non, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il a choisi cela. Mais en même temps, il y a une union très, très intime là. Tout ce que le Père, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et là, on peut penser à un apprenti, le maître, dans l'atelier. Si le maître a simplement un ouvrier ou quelqu'un qui passe comme ça, peut-être temporaire, et tout ça, il va simplement lui dire de faire certaines choses. Mais quand il a l'apprenti, celui qui va prendre, ou on peut même penser qu'il passe ça à son fils, alors il va lui expliquer comment faire, il va lui montrer comment faire les choses dans l'atelier. C'est un peu l'idée qu'on a ici. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire, il y a cette relation-là. Et puis on continue, vous voyez. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors l'apprenti n'arrive pas à faire ce que le maître fait, comme il faut. Mais petit à petit, il va apprendre qu'il devient maître lui-même. Et ici, en fait, il y a le raccourci, c'est-à-dire que le Fils, en fait, il fait pareil que le Père. Car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Vous voyez l'union qu'il y a ici entre le Père et le Fils. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et là, il lui montre que, bien entendu, le Père va l'amener continuellement à travers ce ministère terrestre à accomplir parfaitement ce dessein de rédemption. Ce n'est pas que le Fils ne sait pas, mais il est envoyé. Il est maintenant dans la chair. Sa gloire est écartée. Et il y a ce cheminement avec le Père, on pourrait dire, d'une certaine manière. C'est difficile pour nous à expliquer en termes humains. C'est un petit peu comme on a entendu mercredi, hein, quand le prédicateur essayait de décrire l'éternité. Sa meilleure description, c'est qu'il n'arrivait pas à décrire. Parce qu'on ne comprend pas ces choses-là. Mais ici, vous voyez, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. Parce qu'il est Dieu. Il y a donc cette union. Non seulement donc la divinité pour lui-même, mais cette relation intime avec le Père. Tout en étant distinct, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mais le Fils voit et le Père lui montre. Et le Père ne veut pas être plus honoré que le Fils, car il n'agit pas en dehors du Fils. Et là, on pense par exemple à ce passage dans le premier chapitre de Colossiens, où il est dit, mais il a voulu réconcilier toutes choses par le sang de sa croix. C'est-à-dire que tout passe par ce ministère du Fils. Il existe donc une parfaite union et une parfaite unité entre le Père et le Fils, bien qu'ils aient des rôles différents dans l'alliance de grâce. Et le Fils, et ça c'est très important, le Fils manifeste sa souveraineté, il manifeste sa divinité en se soumettant au Père pour le salut des élus. C'est-à-dire que quand on parle du Fils, et que par exemple Jésus dit, il y a des choses que le Fils ne sait pas, seul le Père sait, par rapport au temps de la fin, il n'est pas en train de montrer qu'il est inférieur au Père, mais il montre qu'il est Dieu, parce qu'il s'est soumis au plan de salut. Et c'est ainsi qu'il accomplit le salut des élus. Le Père a remis tout jugement au Fils pour accorder le salut. C'est-à-dire, ce n'est pas que Jésus vient, le Fils vient et a regardé ce que les hommes font, tel homme fait ça, telle femme fait ça, alors oui, lui peut, elle ne peut pas, et ainsi de suite. Non, c'est que le Fils sait quel est le dessein éternel de Dieu. Et donc, il va œuvrer, il va amener le salut à telle ou telle personne selon le dessein de Dieu. C'est une œuvre souveraine, c'est une œuvre de grâce. Donc, Le Fils manifeste sa souveraineté. Le Père a remis tout jugement au Fils pour accorder le salut à qui il veut. Et il est important pour nous de saisir que tel est le Christ que l'Évangile annonce. C'est ce Christ-là. Et aujourd'hui, il y a des tas de Christ qui est petit C, qui se promènent à droite à gauche. Mais des Christ qui ne sauvent pas. Des Christ qui sont compréhensibles. Des Christ qu'on arrive à manipuler. Non, ça n'est pas cela. Un Christ qui est moins que Dieu ne peut pas sauver. Un Christ qui est moins qu'homme ne peut pas sauver. Et surtout, un Christ qui n'est pas envoyé par le Père ne peut pas sauver. Il nous faut, mes amis, revenir et continuellement rester au cœur de l'Évangile, c'est-à-dire au Christ que déclare la parole de Dieu. Parce que ces Juifs religieux attendaient un Christ. Et ils avaient même des bonnes idées au sujet de ce Christ. Ils lisaient l'Ancien Testament et dans leur compréhension charnelle, ils s'étaient fait des idées. Par exemple, il y avait l'idée, d'après l'Ancien Testament, que pendant 3 jours après la mort, l'Esprit restait autour du corps. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament annonçait qu'au 3e jour, ça c'était à travers Jonas, quelque chose allait se passer, vous voyez. Mais leur compréhension était complètement cernée, limitée par leur humanité, et une humanité qui est déchue. Donc, vous voyez comme quoi il est important pour nous de creuser continuellement pour revenir au cœur de l'Évangile. Parce qu'on peut même dénaturer l'Évangile. On a vu ce que Jésus revendique, la divinité, l'intimité, l'égalité avec Dieu. La réponse que Jésus exige, non seulement Jésus réclame la divinité, mais il exige l'adoration en résultat. Il est Dieu et il mérite donc que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et voilà l'homme qui s'est présenté comme le Fils du Père. Verset 23. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le Christ que nous devons annoncer, le Christ en qui nous devons croire, n'est pas une sorte de mendiant. Vous savez, l'image, le tableau où il frappe à la porte et puis, oh, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Ça, c'est une moquerie de l'Évangile. C'est une moquerie de Christ. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de l'approbation des hommes pour pouvoir entrer dans la vie. Non, il est le Seigneur que tout homme doit adorer. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion. Et encore récemment par rapport au passage de la parole de Dieu, il a expliqué à cette femme tout à fait non religieuse, en termes juifs, cette Samaritaine, il lui a dit, mais ceux qui veulent adorer Dieu correctement, ils l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'ils doivent être transformés. Ce ne sont pas des gens qui décident « Oh, je vais adorer Dieu de telle manière ou de telle autre façon, en faisant ci ou en faisant ça. » Non. C'est quelqu'un qui a reçu une nouvelle vie et qui est centré sur la parole de Dieu. Et c'est ainsi que la véritable adoration doit se faire. Jésus-Christ, ici le Fils, exige encore qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse. C'est le Seigneur. Il est Dieu. Et même les morts l'entendront. Et là, en fait, on a deux niveaux dans le passage. Premier niveau, c'est que quand il va parler la parole de vie, même ceux qui sont morts dans leur péché, qui n'ont aucune vie spirituelle en eux, vont l'entendre. Et c'est intéressant comme ce passage montre les deux appels. Vous voyez, ils vont l'entendre. Il y a ceux qui l'entendront vivront. Tous les êtres humains entendent Christ, d'une manière ou d'une autre, malgré ce qu'on peut dire. Ils l'entendent, mais ils ne l'entendent pas au fond du cœur. Il y a ces deux appels. Et il y a aussi le fait que, au dernier jour, Christ va sommer tout homme à venir. Et les morts l'entendront. Même ceux qui sont complètement, dont le corps est complètement dissous et quoi que ce soit, on ne peut pas retrouver même le moindre reste, l'entendront. Et ceux-là seront jugés, les uns pour la vie, les autres pour la mort. Donc voilà le Fils, voilà. Il est Dieu et même les morts l'entendront. Il n'est pas là pour faire des propositions. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Quand il vient dans un cœur, de la même manière qu'il est venu à ce paralytique, lève-toi et marche. Et franchement, c'était impossible que cet homme ne se lève pas, ne marche pas. Et franchement, c'est impossible que le Fils vienne à un cœur par son Saint-Esprit et donne la vie, et que cette personne ne soit pas transformée. Ce n'est pas possible. Parce que ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, celui qui l'écoute et qui croit à la vie éternelle. Et ça n'est pas une œuvre humaine, c'est ce que Dieu fait. Ici, Jésus parle de l'œuvre de régénération qu'il accomplit déjà par son Esprit. L'heure vient, et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Le salut a été remis au Fils. L'heure vient parce que ce Fils marche vers Jérusalem. Depuis le début de l'Alliance de grâce, si on peut parler début de l'Alliance de grâce, il a visé Golgotha. C'est dans son objectif, c'est dans sa visée. Mais là, maintenant, il marche vers Jérusalem. Et l'heure vient parce qu'il va être élevé de la terre et il va tirer tous les hommes à lui, tous les hommes qui sont en lui. Mais elle est déjà venue parce qu'il est là, c'est lui qui parle. Et de même qu'il est venu vers le paralytique et lui a ordonné de se lever, de prendre son lit, il vient aussi et il ordonne à tout homme d'écouter et de croire. Celui en qui cette parole vient avec la vie, avec la puissance de vie, alors il passe de la mort à la vie, tout comme cet homme paralytique est passé de l'impotence à la guérison. Le Fils a reçu du Père le pouvoir d'avoir la vie en lui-même. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand la parole sort, comme on a dit tout à l'heure, on prie que ça ne soit pas simplement la parole d'un homme, mais que ça soit la voix de Dieu, la voix du Fils que le Saint-Esprit envoie dans la parole. Et là, celui-là passe de la mort à la vie. C'est à chacun des siens d'annoncer ce Jésus, de croire à ce Jésus, un sauveur souverain qui revendique la divinité. Et quand on parle de quelqu'un qui revendique la divinité, on pourrait dire qu'il revendique la royauté. Puis on ne discute pas. Alors c'est notre problème parce qu'on vit dans une génération soi-disant démocratique, mais on ne discute pas avec la souveraineté. Il n'y a pas moyen. Ça tombe comme ça. Et il exige l'adoration, l'obéissance. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que croire? Et on commence à dire, ah, il faut que je sache des tas de choses et puis que je vois. Oui, il y a des stades dans la foi, mais c'est avant tout obéir. Obéir. Il est le sauveur qui appelle les hommes à la foi. C'est le sauveur qui m'appelle à la foi. Et c'est le sauveur qui m'appelle à rendre témoignage de lui-même. De même que son autorité puissante, divine, donne la force de guérison aux paralytiques, elle fait passer les morts à la vie. Est-ce que c'est ce Christ-là en qui je crois? Et est-ce que c'est la vie de ce Christ-là que je vis? Parce que ce n'est pas simplement que maintenant, j'ai un ticket pour le ciel, une protection contre l'enfer. Non, non, non. C'est maintenant la vie de ce Christ, cette eau bouillonnante, n'est-ce pas, toujours nouvelle, qui doit couler en moi. Alors, on ne parle pas nécessairement de faire toujours des bulles, de toujours être en haut de la vague. Non, on sait très bien que c'est autre chose. C'est ce courant puissant qui mène toute la vie, même dans les moments difficiles, même dans les moments de refroidissement. Est-ce que c'est ce Christ-là aussi en qui je crois et que j'annonce? Parce que ça n'est pas le sauveur que le monde accepte et reçoit naturellement. Et donc, nous allons connaître si c'est le Christ, le Fils, que je crois, en qui je crois, que j'annonce, on va connaître la même chose que Jésus, c'est-à-dire l'opposition des Juifs. Bien, mais on va laisser cela à ce point-là, et puis si Philippe est toujours malade la semaine prochaine, ou peut-être même on pourra faire, on continuera si vous voulez bien. Mais rappelons-nous que nous avons besoin de venir au cœur de l'Évangile. Ça, c'est le défi de l'Évangile. Amen.